Je voudrais, pour commencer, vous raconter un vieux souvenir. Quand j'avais 6 ou 7 ans à l'école communale de la rue Corbon, dans le 15e arrondissement à Paris, j'avais une amie, Patricia, avec qui un jour j'ai eu une dispute. Et j'ai déclaré que c'était fini, elle n'était plus ma copine. Ce qui est une histoire évidemment tout à fait banale. Mais ce qui l'est moins, c'est que sa mère, qui connaissait mes parents, est venue m'attendre à la sortie de l'école et m'a chapitrée en me disant « Vous êtes toutes les deux juives, vous devez être amies et vous devez vous tenir les coudes. » Alors j'étais très, très étonnée parce que d'abord, à 6 ou 7 ans, née dans une famille juive française, je ne savais pas trop ce que c'était que d'être juif. Et puis j'étais aussi choquée par cette injonction. Si choquée finalement que je ne l'ai jamais oubliée et que d'une certaine manière, ce soir, c'est aussi une façon de répondre à ce que disait cette femme qui, au fond, a associé identité et solidarité. Un peu comme dans le proverbe qui se ressemble, s'assemble. J'ai d'ailleurs jamais tellement aimé les proverbes et cette prétendue sagesse des nations. Mais j'avais regardé, parce que conférence un peu semblable avait été donnée en anglais, j'avais cherché quand même l'équivalent en anglais de qui se ressemble, s'assemble, et c'est Birds of a feather flock together. C'est-à-dire les oiseaux de même plumage, c'est-à-dire de même espèce, se regroupent ou vont en groupe. Et j'ai trouvé le décalage intéressant parce que finalement, là où le français parle de ressemblance, sans plus de précision, et du fait de s'assembler, c'est-à-dire de s'unir ou de se réunir, l'anglais, au fond, dévoile le fond de l'affaire en naturalisant le comportement. Il parle d'apparence, d'espèce et de comportement grégaire. Alors, faut-il se ressembler pour s'assembler? Devons-nous être les mêmes pour vivre dans les mêmes lieux, pour échanger, pour partager des projets, pour mener des combats communs, pour bénéficier des mêmes droits, pour être solidaires, camarades, amis, amants? À première vue, la réponse est évidente et vous pensez sans doute non, pas besoin de se ressembler pour vivre ensemble. Je suis d'accord avec vous. Mais nous savons aussi que dans le monde d'aujourd'hui, entre les nations et au sein des nations elles-mêmes, s'élèvent partout des frontières, des barrières, des murs. À nos portes, les migrants fuyant la misère ou les persécutions sont rejetés, et pas seulement à nos portes. À l'intérieur, les sociétés sont de plus en plus fragmentées. La peur de l'autre, alimentée par une rhétorique populiste, augmente. L'intolérance et le rejet croissent vis-à-vis de ceux qui sont perçus comme étrangers ou différents en raison de leur origine, leur religion, leur couleur de peau ou leur orientation sexuelle. Les historiens, bien sûr, nous diront que cela n'est pas nouveau. Certes, mais nouveau ou pas, c'est un problème auquel nous devons tous faire face aujourd'hui, car dans des démocraties comme la France ou les États-Unis, et aussi dans d'autres pays européens d'ailleurs, des leaders politiques font campagne sur la haine de l'autre, ils gagnent du terrain, voire gagnent les élections, et arrivent au sommet du pouvoir comme Donald Trump demain. Il nous faut donc aller au-delà de l'évidence de la réponse pour approfondir la réflexion. Et je vais essayer de le faire ici ce soir en 4 temps et à partir d'exemples tirés de mes recherches passées. Je commencerai par examiner les modèles de société basés exclusivement sur la ressemblance, c'est-à-dire sur le fait que tous les membres ont une même apparence et une identité supposée commune. Et nous verrons qu'ils conduisent à l'exclusion des minorités ou à leur assimilation, soit dans les deux cas, à leur suppression. La plupart des sociétés démocratiques, quant à elles, instituent un vivre ensemble malgré les différences.
Elles accueillent, acceptent, tolèrent, marginalisent, selon les cas, selon les époques, leur minorité. Celles-ci sont inégalement traitées, séparées et parfois opposées. Et cela, évidemment, contribue à la fragmentation sociale et mine la possibilité d'une communauté de destin. Alors, à partir de ce constat, je voudrais défendre la nécessité d'un comparatisme apte à rapprocher les expériences minoritaires dans leur diversité. Mais pour autant, une telle comparaison et les connaissances qu'elle apporte suffisent-elles à défaire les préjugés et plus encore à fonder les causes communes? Sans doute pas. C'est pourquoi je terminerai sur l'importance de l'interconnaissance, de l'intersubjectivité et l'éloge de l'empathie. Le modèle de société qui prône l'exclusion de toute différence, de toute altérité minoritaire, peut prendre la forme du ghetto, avec ou sans mur, de l'infériorité de statut, comme par exemple dans la société coloniale, de l'apartheid, de la ségrégation raciale. Il se fonde toujours sur le fétichisme de l'origine, du sang, des ancêtres, des mythes fondateurs. Il est la mixité sociale et culturelle, le métissage, la rencontre, le brassage des populations. Et sa logique ultime est la purification ethnique, dont le fantasme est à la fois eugéniste, sélectionner génétiquement la race dite supérieure, et génocidaire, éliminer physiquement la ou les races dites inférieures. C'est évidemment ce que les nazis ont voulu mettre en œuvre, sous le nom très explicite d'ailleurs de solution finale. Bien sûr, la vision du monde qui sous-tend un tel projet est clairement inégalitaire, elle hiérarchise les humains. C'est également une vision différentialiste, naturaliste, qui essentialise les différences. Tout ceci est connu. Les exemples sont malheureusement trop nombreux, mais je voudrais m'arrêter sur l'importance donnée dans ce modèle à la visibilité des différences. Le raciste veut pouvoir repérer l'autre à coup sûr, pour mieux s'en distinguer, pour mieux l'exclure. Dans un monde en noir et blanc, comme par exemple dans les romans de Faulkner, la ligne de la couleur maintient chacun à sa place. Et si la différence devient invisible, cet ordre est menacé. Alors surgit la frénésie du repérage. Elle remonte les généalogies pour trouver une éventuelle goutte de sang noir. Elle scrute les visages pour y déceler des traits physiques supposés caractéristiques, ou elle cherche dans les noms de famille l'indice d'une origine. Je ne prendrai que cet exemple sur lequel j'ai travaillé dans le passé. Dans les caricatures antisémites, le nom et le nez sont souvent associés dans un même stéréotype. L'idée étant que la nature d'un individu est révélée par son nom comme par ses traits. Mais voilà, on peut éventuellement changer de nom. Alors, l'obsession consistera à repérer les changements et à les dénoncer comme dissimulation, fourberie, faux nez. En France, la presse antisémite, avant-guerre, y excellait, et plus encore sous le gouvernement de Vichy. Elle dénonçait les changements non-juifs et publiait dans ses colonnes des listes. En février 1942, une loi de Vichy retirait aux Juifs français la possibilité légale de changer de nom et elle prévoyait l'annulation rétroactive de tous les changements accordés depuis 1870, c'est-à-dire la date du décret Crémieux. Comme vous le savez, trois mois plus tard, le port de l'étoile jaune leur était imposé et celle-ci devait être cousue de façon très visible sur leurs vêtements. La France suivait l'exemple de l'Allemagne nazie. Ce n'était que le début d'un implacable cheminement de l'exclusion à l'extermination. Le système pratiquant l'exclusion, quel qu'il soit, est donc obsédé par la visibilité de la différence au point de la fabriquer en imposant un stigmate. Le système assimilationniste, lui, est obsédé par la ressemblance au point de l'imposer. L'autre n'est admis que s'il accepte de ressembler à la majorité, d'effacer ce qui le distingue, d'abandonner en somme une part de lui-même. des régimes nationalistes et autoritaires uniformisent ainsi leur population de force. Je l'avais montré à propos de la transformation des noms de famille visant à effacer signes d'identité et traces d'origine. Dans le Tyrol méridional, par exemple, de langue allemande annexée par l'Italie, Mussolini avait décrété en 1928 l'italianisation des noms de famille. En 1940, le Reich a imposé la germanisation des prénoms et patronymes français en Alsace et en Lorraine. En 1959, Todor Živkov a décidé la bulgarisation autoritaire des prénoms et patronymes des minorités, notamment des populations turcophones, auparavant, des Arméniens survivants du génocide, avaient connu le même sort lors de la création de l'État civil turc en 1934. Ces exemples, inscrits dans des contextes politiques, historiques différents, révèlent au fond un même dessein. Fonder autoritairement une nation homogène au mépris des populations qui la composent, dont le passé et les droits sont bafoués. Dans les régimes officiellement démocratiques prônant l'assimilation, celle-ci est généralement suggérée ou prescrite pour le bien des minorités. Le projet assimilationniste ne considère pas qu'il y aurait une différence de nature entre les humains selon l'origine ou la race. Il se déclare universaliste, s'affirme égalitaire, se proclame émancipateur. C'est un projet de domination culturelle et sociale qui implique la disparition de l'autre seulement en tant qu'autre. La violence qu'il exerce à l'encontre des minorités prend souvent la forme d'une contrainte morale. Il ne prétend pas hiérarchiser les individus, ni essentialiser leur identité, mais il hiérarchise les cultures au nom d'une vision présentée comme progressiste, qui est en réalité une conception évolutionniste, c'est-à-dire qu'elle situe les cultures sur une échelle, ou les religions éventuellement, sur une échelle de développement. La République française a longtemps prôné l'assimilation au nom justement de l'émancipation et du progrès. À l'extérieur, nous le savons, cela a justifié l'expansion coloniale. À l'intérieur, cela a accéléré l'unification du pays, non sans brutalité. Par exemple, la création de l'enseignement public a indiscutablement généralisé l'accès au savoir et élevé le niveau d'éducation, mais elle a aussi détruit langue régionale et tradition locale, toutes deux à l'époque interdite à l'école et objet de moquerie. Dans un autre registre, j'avais montré que des candidats à la naturalisation avaient été fortement incités à franciser leur patronyme à cette occasion. Et on pouvait dire, on pouvait croire que cette époque était révolue, car la critique de la politique d'assimilation a commencé quand même dans les années 70, au nom du respect des différences et des spécificités culturelles. Le mot lui-même avait été abandonné. Il avait été remplacé par la notion d'intégration qui exprime la quête d'unité malgré la pluralité et non plus l'homogénéité à tout prix. Et voilà, il ne peut y avoir d'intégration réussie que si la promesse d'égalité républicaine est tenue. Une égalité non seulement au regard de la loi, mais une égalité bien réelle. Or, de nombreux jeunes Français, dont les familles sont venues des anciennes colonies, du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest, ou encore des Antilles françaises, où leurs ancêtres étaient esclaves, ont le sentiment de ne pas être tout à fait des citoyens comme les autres. Ils s'insurgent contre les discriminations dont ils s'estiment victimes. Des discriminations d'autant plus difficiles à faire reconnaître que le modèle républicain, fondé sur l'égalité formelle des citoyens, refuse justement toute distinction. Il est par principe aveugle à la différence, ce qui le rend du même coup aveugle aux injustices fondées sur la différence, sur la couleur de la peau, sur tout autre signe de différence visible. Le problème se pose d'ailleurs également aux chercheurs qui veulent étudier ces discriminations. La loi française interdit en effet de recueillir des informations et de constituer des fichiers en fonction de critères comme la couleur de la peau, la religion ou l'ethnie. Contournant cette interdiction par un protocole d'enquête ne nécessitant pas de fichiers, des recherches ont néanmoins été menées, par exemple sur la fréquence des contrôles policiers en fonction de l'apparence. Les citoyens français d'origine émigrés, en particulier ceux d'origine nord-africaine et subsaharienne, se plaignent depuis longtemps de ce qu'on appelle le contrôle au faciès. Cette étude de Fabien Jobard et René Lévy, basée sur une observation de longue durée, les met en évidence de façon tout à fait irréfutable. Or, en même temps que l'on contrôle les uns sur leur apparence, on dit aux autres, aux jeunes femmes musulmanes, enlevez votre foulard, en d'autres termes, cachez votre appartenance religieuse, devenez invisible. La première affaire du voile remonte quand même à la fin des années 80. Et dès lors, le sujet n'a cessé de revenir dans le débat politique comme une question de première importance sur laquelle il faut absolument légiférer de toute urgence. Une loi de 2004 interdit les signes religieux ostentatoires, en fait le port du foulard essentiellement à l'école, au nom d'une interprétation rigide et erronée de la laïcité. Depuis, des écoles ont interdit aux mères portant un foulard d'accompagner les sorties scolaires auxquelles leurs enfants participaient. Et récemment, après les attentats de Paris et de Nice, 31 villes du sud de la France ont pris un arrêté municipal bannissant le port du burkini sur les plages publiques. On peut penser ce qu'on veut du burkini, mais l'idée qu'il faudrait déshabiller les femmes de force pour les émanciper est quand même une absurdité. Et vous vous souvenez sans doute de cette photo assez choquante d'une femme assise sur une plage, contrainte de retirer son burkini, entourée par 3 policiers debout. Elle a fait le tour du monde sans vraiment nous faire honneur, je crois. Depuis, le Conseil d'État, rappelant les droits et la liberté fondamentale, a déclaré ces arrêts municipaux illégaux. Mais il n'empêche, cette question de la visibilité des musulmans dans l'espace public, qu'il s'agisse des mosquées, des prières, du voile ou des aliments, demeure une véritable obsession médiatique et politique, à droite comme à gauche d'ailleurs. Dans un contexte d'attentats terroristes et de politique de la peur, l'islamophobie grandit, confondant religion et intégrisme, puis intégrisme et terrorisme. Dès lors, tout signe religieux islamique tend à devenir un signal, voire un signalement. Et voilà que le thème de l'assimilation qui avait été abandonné revient avec une vigueur toute nouvelle. Ces préjugés habituels, la hiérarchie des cultures, des civilisations, des religions et l'injonction à l'invisibilité sont donc de retour. Et cette hiérarchie passe également entre les minorités, les vagues d'immigration et leur descendance. Certaines étant jugées assimilables ou intégrables et pas d'autres, elles ne seraient donc pas comparables. L'incomparabilité, en vérité, est souvent l'alibi de ceux qui exaltent le caractère supposé exceptionnel d'un groupe, d'une population, d'une nation. Ou encore de ceux qui assignent d'autres groupes, d'autres populations à une identité dévalorisée. De plus, si rien n'est comparable, les inégalités peuvent prospérer. Personne n'est concerné au-delà de son cercle d'appartenance. Voilà, chacun chez soi, chacun pour soi, et les places, une fois de plus, sont bien gardées. Je pense pour ma part qu'il y a non seulement un gain de connaissance, mais un parti pris humaniste dans l'activité comparative. Et puis, vous le savez bien sûr, faut-il le rappeler, comparer, ce n'est pas ignorer les différences, c'est postuler qu'il y a à la fois du divers et du commun, ce qui est quand même le béaba de toute anthropologie tant soit peu sérieuse. Alors, peut-on comparer les immigrés d'hier et d'aujourd'hui, ceux venus d'Europe, les Polonais dans les mines du Nord, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Juifs dans l'entre-deux-guerres, et ceux qui arrivent de plus loin, des zones de conflit du Proche-Orient ou de l'Asie centrale, des pays du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Oui, je le pense, et c'est éclairant. Bien entendu, les immigrés du passé, dans leur diversité, comme ceux du présent, tout aussi divers d'ailleurs, ont des histoires, des cultures, des mémoires particulières. Et les contextes historiques de leur migration, comme les rapports entre les pays d'origine et la France ou d'autres pays d'immigration, sont à chaque fois spécifiques. Et il est vrai qu'on peut, de ce point de vue, les étudier séparément, ce qui se fait le plus souvent, même presque toujours, dans les études sociologiques sur les migrations. Mais on peut également chercher ce qu'ils ont en commun, en se plaçant d'un autre point de vue. Ce point de vue, c'est celui des formes de l'expérience. Alors, quelle forme de l'expérience? Quelle expérience? Celle d'abord d'un parcours aventureux. Il n'est pas aisé de quitter un lieu, un environnement, sa langue, même si c'est pour fuir la pauvreté ou les persécutions et pour parier sur un avenir possiblement meilleur. Il faut de l'audace pour affronter l'épreuve du départ et celle de l'exil, sans compter, bien sûr, les aléas, voire les périls à surmonter sur la route. Il s'agit, à mes yeux, d'une expérience héroïque, au sens où chacun, avec bravoure, tente, malgré l'adversité, d'être sujet de son destin. Alors, évidemment, cet héroïsme-là est généralement ignoré, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'y insiste si régulièrement. Les migrants sont plutôt, au mieux, perçus comme des victimes, ce qui est vrai aussi. Et c'est une autre expérience également partagée. Celle d'une condition fragilisée, d'étranger, de minoritaire, disons de non-appartenant. Lors de mon enquête ancienne sur les Juifs originaires de Płock en Pologne, plusieurs interlocuteurs m'avaient raconté comment ils vivaient à Paris dans les années 30. Ils étaient venus de Pologne avec un visa de tourisme qui, depuis longtemps, avait perdu toute validité, et ils se retrouvaient en situation irrégulière. Ils étaient clandestins. À l'époque, on ne disait pas sans-papiers. Et ils n'avaient pas d'autre choix que le travail au noir, précaire et sous-payé, quand ils en trouvaient. Ils vivaient aussi dans la crainte de l'expulsion. Car dans cette période de crise économique, on était quelques années après la crise de 1929, alors que des lois destinées à freiner l'immigration clandestine et à restreindre l'emploi des étrangers avaient été promulguées en 1934, les descentes de police étaient extrêmement fréquentes. Des expériences comme celle-là, de double fragilité économique et administrative, sans droit ni protection, des émigrés venus d'ailleurs les avaient subis avant eux, d'autres les subissent aujourd'hui. Le sentiment de vulnérabilité, la crainte de se retrouver sans ressources ou d'être interpellé puis expulsé sont bien analogues, même si les origines et les contextes varient. En vérité, la disparité, la différence importante du point de vue de la précarité objective des uns et des autres et de ses conséquences subjectives en tant qu'expérience passe moins entre les uns et les autres, ceux du passé, ceux du présent, qu'entre les illégaux et ceux qui ne le sont pas. Autrement dit, entre les sans-droit et les ayants-droit, ne serait-ce qu'à minima avec un récépissé, quelque chose de cet ordre. Et cela, quelle que soit leur provenance et leur ascendance. Bref, c'est la condition qui prime, pas l'origine, évidemment. Pionnier un peu oublié, le sociologue Albert Mimi avait entrepris dès les années 50 et 60 de comparer diverses conditions d'oppression, celles des peuples colonisés d'Afrique du Nord, des Juifs et des Noirs américains, et les conséquences subjectives de ces conditions d'oppression. Juif tunisien, sa réflexion était partie de sa propre expérience. Et humaniste sincère, il était convaincu que la comparaison de ces expériences différentes était le premier pas vers une convergence des consciences et des luttes d'émancipation. Néanmoins, force est de constater que sur ce sujet, certains ont la mémoire courte. Associer le cas des Juifs en situation irrégulière dans l'entre-deux-guerres et celui des sans-papiers d'aujourd'hui, comme il m'est arrivé de le faire à plusieurs reprises et devant des publics divers, étonne et parfois dérange les descendants des clandestins d'antan, tant ils ont oublié finalement comment vécurent leurs parents ou leurs grands-parents. Je plaide au contraire pour la fidélité d'une mémoire en alerte. Il me semble que la conscience et la mémoire de ces analogies de conditions devraient, idéalement, favoriser la compréhension et susciter la solidarité, comme ce fut le cas, par exemple, dans les régions de résistance sévenole qui ont caché des Juifs pendant la guerre, ou comme c'est le cas dans ces îles où l'on connaît la nécessité de l'exil, comme Lesbos ou Lampedusa, où des habitants portent ces dernières années secours aux migrants en mer ou sur leurs rives. Je ne veux pas dire, évidemment, qu'il faut être fils ou fille ou parent d'émigrés d'hier pour se sentir concerné par la situation des émigrés d'aujourd'hui et s'engager pour les soutenir. L'hospitalité, la solidarité reposent sur des convictions éthiques, politiques ou religieuses très diverses, et pas nécessairement, bien sûr, sur la mémoire d'une expérience d'exil. Il me semble, en revanche, qu'une autre forme d'expérience renforce ces engagements et ces solidarités sur la durée. C'est l'expérience d'une découverte réciproque, de la création d'un lien interpersonnel, d'une forme d'intersubjectivité. C'est un des enseignements que j'avais tiré de mon travail sur les alliances et les solidarités entre des Juifs et des Noirs durant le XXe siècle. J'y retraçais les luttes menées côte à côte par des personnages célèbres, tout à fait inconnus, pour les droits civiques aux États-Unis, contre l'apartheid en Afrique du Sud, ou encore contre le fascisme et le colonialisme en Europe. Les valeurs, les idéologies sur lesquelles se fondait leur combat d'alors étaient là aussi extrêmement diverses. Elles allaient du réformisme social au communisme, de la théologie juive à la théologie chrétienne, en passant par une large déclinaison de sensibilités politiques et spirituelles. Tous, certes, s'engageaient au nom d'une commune humanité, mais celle-ci n'était pas simplement une abstraction, un principe éthique, une ligne politique, une ligne d'horizon. C'était une évidence qu'ils éprouvaient en se rapprochant. Les liens tissés à la faveur des collaborations intellectuelles, des fraternités de combat, des camaraderies, des amitiés, leur permettaient en fait d'approfondir une connaissance mutuelle, indifférente, totalement indifférente, aux hiérarchies comme aux préjugés. Une connaissance attentive, en revanche, aux analogies comme aux disparités d'expérience, d'histoire et de mémoire. Et pour cette raison, une connaissance, évidemment, enrichissante pour tous. Les militants associatifs qui aident les migrants insistent souvent sur le fait que cela enrichit leur vie d'une dimension humaine nouvelle. Que le don n'est pas à sens unique. On retrouve des remarques analogues dans les récits des justes qui ont aidé les familles juives pendant les guerres. Ce qui me semble le mieux désigner ce rapprochement dans l'échange est le concept d'empathie. Celui-ci n'a rien à voir avec la sympathie et surtout pas avec la sympathie compassionnelle envers les victimes qui tend, elle, il me semble, à reproduire des relations inégalitaires. Le concept d'empathie qui, venu de l'esthétique, passé par la phénoménologie de Husserl puis par la psychologie de Rogers, désigne la capacité à prendre et à comprendre le point de vue d'autrui, à concevoir son expérience, à saisir sa pensée, ses sentiments et à les intégrer à sa propre vision. Pour dire les choses autrement, adopter à un moment la perspective de l'autre ne permet pas simplement de se rapprocher, de se comprendre mieux, ce qui est déjà pas si mal. Cela permet également, en retour, de revoir sa propre perspective. Car selon la formule d'Edouard Glissant, que nous aimons citer et avec mon ami Mantia qui n'est pas là. Je change et changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant. Alors finalement, s'il n'est pas nécessaire de se ressembler pour s'assembler, on peut peut-être, d'une certaine manière, renverser la proposition. Car qui s'assemble crée du commun, du familier, et dans ce rapprochement, finit par se ressembler un peu plus, sans qu'il faille pour cela gommer les différences.